Bonjour à tous. Donc, nous commençons aujourd'hui une leçon qui va nous occuper jusqu'à la fin du cours et qui est consacrée donc à l'application d'une technique géométrique pour la résolution des problèmes d'écoulement de fluide parfait incompressible en régime irrotationnel. Il existe plusieurs stratégies pour résoudre les problèmes d'interaction entre un écoulement et un obstacle profilé. Celle que nous allons présenter aujourd'hui et que nous pratiquerons en petite classe est une technique qui est basée sur un outil géométrique qu'on appelle la transformation conforme et qui est au cœur donc de ce qui va nous occuper jusqu'à la fin du cours. Il existe une autre technique pour travailler sur l'interaction entre un écoulement et un obstacle profilé qui consiste, c'est une technique de linéarisation et pour ceux qui ont déjà commencé à travailler l'EDM, vous avez donc un peu les prémices de ce que cette technique rend capable de faire. C'est une technique donc que vous explorerez par vous-même dans le cadre du DM en deux parties qui vous est proposé. On va se concentrer dans le cadre des amphis et dans le cadre des TD à la technique géométrique de transformation conforme que je vais donc maintenant vous présenter. Alors, le contexte est le suivant. Nous avons consacré 2 TD de 2h30 à travailler sur l'interaction entre un écoulement et un obstacle qui n'était pas un obstacle profilé, qui était un objet cylindrique circulaire. D'accord? Et nous avons compris que donc nous avons étudié le régime cyclique, nous avons commencé par le régime acyclique bien sûr, et puis ensuite le régime cyclique, et nous savons à peu près tout donc maintenant de l'interaction en régime irrotationnel bien sûr entre un écoulement et un tel objet. On n'a pas manqué bien sûr de montrer notamment dans le cadre du régime cyclique, que l'écoulement était responsable d'une portance, et puis on a pu faire le lien avec l'effet Magnus, renvoyer un certain nombre de phénomènes qui sont expliqués par l'effet Magnus. On n'a pas manqué néanmoins de vous dire que ces écoulements étaient des objets en fait académiques et que dans la réalité, on ne les observait pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de reproduire au laboratoire les solutions mathématiques que nous avons mis en évidence, aussi bien dans le régime acyclique que dans le régime cyclique. Alors vous doutez bien que si on a consacré 5 heures de notre emploi du temps à l'étude de solutions académiques, c'est qu'elles vont nous servir, d'accord? On n'a pas fait ça juste pour le plaisir, puisqu'en fait, encore une fois, ces solutions ne peuvent pas être observées au laboratoire, elles n'ont pas de réalité physique. Donc on va en fait justifier aujourd'hui pourquoi on a passé tout ce temps à ces études. C'est parce qu'elles vont constituer le socle pour la résolution de solutions qui, elles, auront une réalité physique et qui peuvent être observées au laboratoire, mais qui concernent des obstacles, cette fois-ci, profilés. Alors qu'est-ce qu'on appelle un obstacle profilé? C'est un obstacle en fait dont l'épaisseur est faible par rapport à la corde, d'accord? Et évidemment, ce qu'on a en tête, ce sont des voiles ou des ailes d'avion. Voilà. Alors, après cette introduction, eh bien, je vais présenter donc ce concept de transformation conforme, qui est tout d'abord un outil géométrique. Donc, pour le moment, ne regardez sur ce schéma que la géométrie. Vous distinguez ici 2 plans, un plan antécédent et un plan image, qui se correspondent par une transformation géométrique, qui est la transformation qui, à grand Z, associe petit z. D'accord? Et typiquement, bah, cette transformation aurait la vertu, au moins sur mon dessin, de transformer ce disque circulaire en une ellipse arbitrairement aplatie. D'accord? Donc certains d'entre vous, dans certaines petites classes, hein, on a déjà travaillé sur cet outil, sur cette transformation géométrique, et évidemment, les choses seront pour vous un peu plus claires dans ce contexte-là. Donc, pour le moment, un outil strictement géométrique, on va mettre en place soigneusement les notations parce qu'on les utilisera systématiquement. On appellera plan grand Z, le plan antécédent, et plan petit z, le plan image, tout simplement parce que grand Z est l'antécédent de petit z par la transformation en question. D'accord? Cette transformation, on va lui donner quelques propriétés de régularité. On va demander que H soit une application holomorphe du plan complexe, d'accord? Et qu'elle possède peut-être certaines singularités, mais qui sont cachées en général dans l'objet ici en noir, dans le disque. On verra ça tout de suite sur un exemple. Voilà. Donc, ces transformations, quand elles sont équipées de la régularité que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le caractère holomorphe de la fonction h, d'accord, ont une propriété très remarquable, c'est qu'elles conservent les angles. Elles ne conservent pas les longueurs, sinon ce serait des isométries, mais elles conservent les angles. Et la preuve de cette affaire-là est extrêmement simple à produire. Si j'ai une relation de la forme petit z égale h de grand Z, d'accord, eh bien je vais la différencier au voisinage du point d'affixe z0. Je vais trouver à ce moment-là que, évidemment, d petit z, c'est h' de z0 d grand z. Donc, plus concrètement, d'accord, si je considère un vecteur matériel qui a pour origine z0 et qui est infinitésimal, voici par exemple un tel vecteur, le vecteur d grand z, d'accord, ben son image, ça va être un vecteur d petit z qui aura pour origine petit z0 égale h de z0, d'accord, et qui sera lui-même infinitésimal, représenté par donc le nombre complexe des petits z, avec des petits z égale h' de z0 des grands z. Alors, si h' de z0 n'est pas nul, d'accord, eh bien, il est très facile de voir comment je passe, au moins en orientation, de des grands z à des petits z. Il suffit de lire cette relation, d'accord, au sens des arguments. Et vous savez que l'argument d'un produit de deux nombres complexes, c'est évidemment la somme des arguments. Et c'est exactement ce qui va me servir ici. Là, j'ai décomposé des petits z en faisant apparaître le module de h' de z0, et puis l'exponentielle i fois l'argument de h' de z0. Donc je vois que l'argument de des petits z, ça va être l'argument de h' de z0 plus l'argument de des grands z. Autant dire que le vecteur des petits z, enfin le vecteur, l'affixe du vecteur des grands z, c'est-à-dire des petits z, c'est-à-dire l'affixe du vecteur image, d'accord, eh bien, est obtenu en faisant tourner d'un angle h', argument de h' de z0, le vecteur d'affixe des grands z, d'accord. Donc en fait, localement, ma transformation va probablement faire varier les longueurs, d'accord, mais elle va avoir un effet de rotation sur les vecteurs infinitésimaux, et cette rotation est la même pour tous les vecteurs qui ont la même origine, c'est-à-dire le point z0, cette l'angle de la rotation étant l'argument de h' de z0. Alors bien sûr, si de plus le module de h' de z0 est localement égal à 1, eh bien localement ma transformation est une isométrie. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas la variation de longueur, ce qui m'intéresse, c'est la variation angulaire. Voilà. Alors il en résulte en particulier que si je prends deux vecteurs des grands z1 et des grands z2, d'accord, et que j'examine leurs images, des petits z1 et des petits z2, eh bien je vois que l'angle du dièdre est conservé, son orientation aussi bien sûr, d'accord, l'angle du dièdre est conservé par la transformation, d'accord. Mettez-vous bien dans la tête qu'il ne s'agit pas d'une rotation, mais qu'elle conserve les angles. Et c'est en ce sens qu'on appelle ça une transformation conforme. Voilà. Alors ça va me dire, par exemple, que si je prends ici un vecteur tangent à l'objet dans le plan antécédent, d'accord, je prends donc typiquement si c'est un disque circulaire, si j'ai un disque circulaire et que je prends également la tangente ici, comme ceci, ou alors dans l'autre sens, par exemple, je vais prendre dans l'autre sens, vecteur Eθ, ok, voici mon disque et voici sa tangente. Eh bien, je vais obtenir l'image de cette affaire-là, dans le plan image, aussi. Ce sera quelque chose qui sera tangent à mon ellipse, d'accord? Et pour passer de la tangente dans le plan antécédent à la tangente dans le plan image, je vais simplement ajouter l'argument de h' de z0. Donc, une règle très simple qui va être que l'argument de d petit z, c'est l'argument de d grand z plus l'argument de h' de z0. Et l'image de la tangente, d'accord, eh bien, c'est la tangente dans le plan image, tout simplement. OK? Voilà. Donc ça, c'était des aspects strictement géométriques. Maintenant, la question qui se pose, c'est à partir de cette affaire-là, est-ce que je suis capable de transporter l'écoulement. Qu'est-ce que ça veut dire transporter l'écoulement? Supposons que j'ai réussi à résoudre l'écoulement dans le plan antécédent. C'est-à-dire que pour l'objet antécédent, je connais le potentiel complexe F de grand Z. D'accord? Bah, cette hypothèse, par exemple, elle est satisfaite dans le cas du cylindre, du cylindre circulaire, puisque nous savons parfaitement résoudre ce problème-là. Nous savons exhiber la structure de F de grand Z dans le cas acyclique comme dans le cas cyclique. OK? Voilà. Donc, supposons que je connaisse l'écoulement, et c'est bien le cas, je viens de le dire, dans le cas du cylindre circulaire, dans le plan antécédent. Est-ce que je suis capable de deviner ou d'exhiber le potentiel complexe dans le plan image? D'accord? Et bien, en fait, cette relation va nous guider. Quelle est l'idée? Ben, l'idée, c'est que ben, je sais que la frontière de l'obstacle est une ligne de courant. Donc, localement, au niveau de l'obstacle, la vitesse se comporte exactement comme le vecteur unitaire tangent. Ce qui veut dire que si le vecteur unitaire tangent est obtenu entre le plan antécédent et le plan image par une rotation d'angle H' de Z0, il doit en être exactement de même de la vitesse. Comme ça, je garantirai que l'écoulement que je fabrique dans le plan image est bien compatible avec le contour de mon image. Alors ça, ça s'écrit tout simplement par une relation de la forme, ben, l'argument de la vitesse, de l'affixe de la vitesse dans le plan image, ça doit être ben, l'argument de l'affixe de la vitesse dans le plan antécédent, plus, excusez-moi, je suis obligé d'écrire sur deux tableaux, l'argument de H' de Z0. J'ai tout simplement transposé cette règle qui concerne l'orientation de la tangente en une règle qui concerne l'orientation des vitesses. Alors attention, cette affaire-là, c'est pas la vitesse complexe. Vous savez bien que la vitesse complexe, c'est-à-dire la dérivée du potentiel complexe, ça va être u petit x moins i uy moins, et non pas plus, d'accord, dans le plan image, de la même façon ici. La dérivée de mon grand F de Z, c'est-à-dire grand F prime de grand Z, bah, ça va être u grand x moins i u grand y. Okay? Donc si je veux passer aux vitesses complexes, bah, faut que je prenne l'argument du conjugué. Et l'argument du conjugué, c'est tout simplement l'opposé de l'argument. Donc, c'est-à-dire que si je veux mettre des, je vais mettre des moins partout, je vais mettre un moins ici, je vais mettre ici également un moins, et à ce moment-là, j'ai évidemment encore ici un moins. OK? Et puis, je vais faire rentrer ce moins à l'intérieur de la parenthèse en disant que je prends l'argument du conjugué. C'est-à-dire, en fait, en l'occurrence, l'argument de la vitesse complexe. Je répète, ux plus iy, c'est l'affixe de la vitesse, mais nous avons appelé vitesse complexe la dérivée du potentiel qui est en fait le conjugué de l'affixe de la vitesse réelle. D'accord? Voilà. Donc cette précision est en fait, ce moins, je le reporte à l'intérieur de l'intégrale, de la même façon que celui-là. Et tout d'un coup, je suis en train de dire que, eh ben, le potentiel que je cherche dans le plan image, je cherche un potentiel F de petit z, d'accord? Quel peut être ce potentiel? Eh bien, ce que je sais, c'est que l'argument de F prime de petit z, d'accord? Ça doit être l'argument de grand F prime de grand z moins l'argument de H prime de z0, d'accord? Moins l'argument de H prime de z0. Ben ça, ça m'amène assez naturellement à faire une hypothèse. Ben, est-ce que je peux bâtir F' de petit z? Comment bâtir F' de petit z? De façon à ce que F' de petit z ait comme argument l'argument de F' de grand z, grand F' de grand z, moins l'argument de H' de z0. Ben, le résultat est tout simple. Il suffit une hypothèse, enfin, une solution possible. C'est cette affaire-là. Si vous regardez le membre de droite et que vous cherchez son argument, eh ben vous trouvez que l'affixe de ce quotient, c'est bien sûr l'argument de ce quotient, c'est bien sûr la différence des arguments entre le numérateur et le dénominateur, et c'est exactement ce qui est marqué ici. D'accord? Donc je suis en train de dire, est-ce que je peux définir mon potentiel dans le plan image par la relation grand F' de grand Z sur H' de grand Z. Donc là, je suis dans une démarche, d'accord, de construction de mon potentiel F petit z dans le plan image. Je fais le point avec vous. J'ai observé que du point de vue strictement géométrique, la tangente tourne de H' de Z0. J'en ai déduit, puisque des obstacles sont, le contour des obstacles sont des lignes de courant, et par conséquent, la vitesse doit vivre exactement comme la tangente. Et ben, j'en déduis que la vitesse dans le plan image au niveau de l'obstacle va tourner exactement comme la tangente. D'accord? Donc, avec les règles de calcul qui relient la vitesse et le potentiel complexe, je suis amené à chercher f' de z de façon à ce que son argument soit la différence entre l'argument de f' de grand z et l'argument de h' de grand z. Et c'est comme cela, naturellement, que je suis amené à chercher petit f' de petit z comme le quotient grand f' de grand z sur h' de grand z. D'accord? Or, il se trouve que cette relation est intégrable. Cette relation est intégrable parce que c'est tout simplement ce quotient, d'accord? Eh ben, c'est tout simplement la dérivée de f de h moins 1 de grand z. Si vous y êtes, regardez de plus près. Alors, voilà comment on peut avoir l'idée, d'accord? Maintenant, je vais travailler d'une manière un petit peu différente, ok? Je vais oublier tout ça. Tout ça m'amène naturellement à avoir envie de poser le résultat que je vais présenter maintenant. D'accord? L'idée, c'est de dire, comment bâtir f de petit z? Je produis une règle toute simple qui est celle-là. Je vais décider que le potentiel complexe dans le plan image est égal au potentiel complexe dans le plan antécédent en des points homologues. D'accord? Ça s'écrit de deux manières. Ça peut s'écrire f de petit z égale grand f de grand z. En petit z égale h de grand z, le potentiel complexe dans le plan image est égal au potentiel complexe dans le plan antécédent, d'accord, en des points qui se correspondent par la transformation, ce que j'appelle des points homologues. Et la raison pour laquelle je fais ça, eh ben, je viens de l'exposer. Je vous ai montré comment on était naturellement amené à postuler ce résultat. Une autre façon de l'écrire, bien sûr, lorsque je sais, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais lorsque je sais inverser la relation petit z égale h de grand z de façon explicite, c'est de dire f de petit z, ça va être grand f de h moins 1 de petit z. Si vous essayez ça, d'accord, et ben vous trouvez exactement ce que cette affaire-là m'a amené à deviner, c'est-à-dire que f' de petit z, c'est bien le quotient grand f' de grand z sur h' de grand z. Voilà, j'en dis pas plus parce que je pense que maintenant c'est simple, c'est acquis, d'accord. L'idée, c'est que tout simplement en écrivant la règle de compatibilité d'un obstacle avec un écoulement qui postule que la frontière de l'obstacle doit être une ligne de courant et en observant le transport géométrique des vecteurs par la transformation conforme, j'ai été amené à postuler ce résultat. Donc en fait, quelque part, j'ai déjà démontré que cette règle assure que l'écoulement que je bâtis à partir de f de petit z est bien compatible avec l'obstacle dans le plan image. J'ai tout fait pour, parce que j'ai montré que à partir du moment où cette règle, évidemment, je l'obtiens par différenciation, hein, si je différencie ici f de petit z égale grand f de grand z membre à membre, je vais trouver petit f' de petit z des petits z égale grand f' de grand z des grands z, et le quotient des petits z sur des grands z, c'est justement h' de grand z, ce qui m'amène bien sûr à écrire cette affaire-là. Encore une fois, en des points homologues, c'est-à-dire petit z égale h de grand z. Ou alors, je me souviens de la manière dont on dérive f rond h moins 1, et j'obtiens évidemment exactement la même chose. D'accord? Donc en fait, à ce stade, nous avons déjà démontré que le potentiel f de petit z ainsi défini était compatible avec la géométrie image, d'accord, de l'obstacle antécédent par h de z. Mais on va le retrouver dans un instant par un autre procédé. Alors, à partir du moment où j'écris que les potentiels complexes sont égaux en des points homologues, j'écris automatiquement que leur partie réelle et leur partie imaginaire sont égales en des points homologues. Donc également la variation entre deux points ou sur un arc, de la partie réelle, la variation entre deux points sur un arc de la partie imaginaire se conserve. Okay? Et ça, c'est extrêmement précieux parce que je sais que la variation de la partie réelle, ça va être la circulation, d'accord ? La variation de la partie imaginaire, ça va être le débit. Je vous rappelle, je vous renvoie à l'usage, aux propriétés que nous avons identifiées pour phi, partie réelle de f, pour psi, partie imaginaire de f, d'accord ? Nous avons vu que la variation de phi me donnait la circulation sur un arc, la variation de psi me donnait la circulation sur un, le débit sur un arc, pardon. D'accord. Bon ben, à partir du moment où je possède les propriétés que f, que phi de petit z, ben, c'est grand phi de h moins 1 de petit z, psi de petit z, c'est grand psi de h moins 1 de petit z, eh bien, je vois que les circulations et les débits se conservent. Ok. Ça, c'est un premier point qui peut être extrêmement précieux. Et puis, il y en a un deuxième, c'est qu'en particulier, nous avons démontré que les lignes de courant étaient les lignes isopsi. Eh ben, si psi de petit z égale grand psi de h moins 1 de petit z, ou encore petit psi de petit z égale grand psi de grand z en des points homologues, ben, je vois que les isovaleurs dans le plan antécédent sont transportées sur des isovaleurs dans le plan image, et réciproquement que l'image réciproque d'une ligne de courant dans le plan image est une ligne de courant dans le plan antécédent. Donc, par ce procédé en particulier, la frontière de l'obstacle image, c'est-à-dire de l'obstacle que j'obtiens par la transformation de petit z égale h de grand z, est forcément une ligne de courant pour f de petit z, dans la mesure où son antécédent par petit z égale h de grand z est une ligne de courant dans le plan antécédent. D'accord ? Donc, ben, ça, c'est une autre façon de se convaincre que la définition de f de petit z à partir de grand f de grand z que nous venons de nous donner assurer que petit f de petit z était bien un écoulement compatible avec l'obstacle dans le plan image. Voilà. J'en dis pas plus pour cette affaire-là, mais ce que vous avez ici, c'est fondateur, c'est essentiel. Ça veut dire que dès que j'ai réussi à résoudre un problème dans le plan antécédent, je sais résoudre le problème. J'ai la solution, plus exactement, c'est pas je sais, j'ai la solution de l'écoulement dans le plan image. D'accord ? Et ce, quel que soit l'obstacle que je considère dans le plan antécédent, et quelle que soit la transformation, petit z égale h de grand z, que j'utilise, pourvu bien sûr qu'elle soit holomorphe. D'accord ? Vous aurez néanmoins remarqué que dans la règle de conformité, qui a été à la base du raisonnement, eh bien, j'ai supposé que h' de z0 n'était pas nul. D'accord ? C'était la clé pour comprendre cette conformité, cette conservation des angles. Et on a encore ici cette règle ici, n'est valable, bien sûr, que si h' de z0 n'est pas nul. Sinon, je ne peux pas travailler. Je ne sais pas ce que c'est que l'argument de 0. Okay ? Voilà. Donc ça voudra dire qu'il faudra faire attention si, dans la transformation que j'utilise, et pour le domaine d'étude où elle est appliquée, il existe des points où h' s'annule. Ils demanderont forcément un travail spécifique. Voilà. Alors, la transformation que nous allons utiliser, presque exclusivement, sauf ceux d'entre vous qui feront le projet sous Python, et j'en profite pour signaler que ce projet est désormais disponible sur EDUCnet, hein, comme ça avait été annoncé. Donc, la transformation que nous allons utiliser de manière exclusive en dehors du projet Python, bah, c'est la transformation de Joukowsky, dont vous voyez ici qu'elle est extrêmement simple, et dans certaines petites classes, elle a déjà été étudiée. Alors, de quoi s'agit-il ? Bah, déjà, mathématiquement, d'accord, c'est l'application qui, à grand Z, associe grand Z plus C carré sur grand Z, où petit c est un réel, qu'on prend toujours évidemment strictement positif, ça n'a aucune espèce d'importance. Ok ? Ce qui est très important, c'est que C est un réel. D'accord ? Alors, bon, on va tout de suite démontrer une propriété sympathique de cette transformation, c'est que, ben, par exemple, bien sûr, H a une singularité en Z égale à 0, on ne la verra pas, dans la mesure où on va toujours appliquer cette transformation à un domaine qui est le complémentaire d'une région qui contient l'origine. Donc l'origine, z égale à 0, n'appartiendra jamais au domaine d'étude. De sorte qu'il n'y a pas de singularité en grand z égale à 0, parce que grand z égale à 0 n'appartient pas au plan antécédent. Okay ? Dans la mesure où ce qu'on appelle le plan antécédent, en fait, c'est la partie, c'est le domaine d'étude dans R2. Okay ? Et ce sera systématiquement le complémentaire d'une région qui contient l'origine. Donc typiquement, premier cas, je vais m'intéresser au complémentaire d'un disque de rayon grand R. Et je vais me placer dans la situation où grand R est strictement plus grand que C. Ce que je viens de dire est très important. D'accord ? Dans certains cas, on va voir ça tout de suite, tout à l'heure, en petite classe, on va faire tendre grand R vers petit C, d'accord ? Mais grand R est toujours strictement supérieur à C. OK ? Voilà. Alors, typiquement, si je m'intéresse à un obstacle qui est un cylindre circulaire de rayon grand R, strictement plus grand que C, quelle est l'image que j'obtiens ? Et donc, quel est le problème que je sais résoudre, que j'ai résolu, d'accord, au sens du transparent précédent ? Eh bien, c'est assez facile à faire. Je raconte ça pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu le film, d'accord ? Eh bien, je vais paramétrer mon cercle de rayon grand R, tout simplement par grand R exponentiel de 8 θ. D'accord ? Donc je vais avoir grand R exponentiel de 8 θ, c'est-à-dire grand R facteur de cosinus θ plus sinus θ, plus C carré sur grand R facteur de cosinus θ moins sinus θ, ce que j'ai réécrit sous cette forme en factorisant le cosinus et le sinus. D'accord ? Et maintenant, eh bien, j'ai ma partie réelle qui est donc petit x égale grand R plus C carré sur grand R cos, ma partie imaginaire qui est grand R moins C carré sur grand R sin. Ok ? Je rappelle que grand R est strictement plus grand que C, de sorte que ces deux nombres sont des réels strictement positifs, d'accord ? Je fais la somme des carrés de la partie réelle divisée par grand R plus C carré sur grand R et de la partie imaginaire divisée par grand R moins C carré sur grand R, et je trouve l'unité. D'accord ? Donc ce que j'ai sous les yeux, c'est l'équation cartésienne d'une ellipse, d'accord ? D'une ellipse qui est centrée à l'origine, dont les axes sont coïncident avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, et je vois que la longueur des demi-axes est grand R plus C carré sur grand R, qui est donc un nombre qui est strictement plus grand que R, et grand R moins C carré sur grand R, qui est un nombre strictement plus petit que grand R. Donc j'ai obtenu une ellipse qui est aplati dans le sens des ordonnées, son rapport d'aspect, c'est-à-dire le quotient entre le demi-axe selon Y et le demi-axe selon X, c'est strictement plus petit que l'unité. D'accord ? Donc, ce que je suis en train de raconter, c'est que j'ai su résoudre le problème de l'interaction d'un écoulement avec un cylindre circulaire, dans le régime acyclique et dans le régime cyclique, ça y est, je sais résoudre le même problème pour une ellipse, sans autre calcul. Tout est déjà fait. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement puissant. Okay ? Alors, on va regarder, parce que c'est intéressant, le cas asymptotique. Lorsque grand R tend vers petit c, j'ai dit que grand R était strictement plus grand que C. Lorsque grand R tend vers petit c par valeur supérieure, je vois que la demi-longueur la demi-longueur parallèle à l'axe des abscisses tend vers 2R, ou vers 2C en l'occurrence, okay, si je fixe C, tandis que la demi-longueur pour le demi-axe qui est collinaire à l'axe des ordonnées tend vers 0. Donc en fait, mon ellipse devient infiniment aplatie, d'accord, et elle tend vers un segment de longueur 4C, qui est le segment moins 2C plus 2C. Hein, votre 2C, c'est R carré, c'est la limite de R plus C carré sur grand R, lorsque grand R tend vers C. Et puis, le fait que j'obtienne une ellipse infiniment aplatie, ça provient évidemment du fait que grand R moins C carré sur grand R tend vers 0. Okay ? Quoi qu'il en soit, et ça, on verra ça tout à l'heure en TD, il ne faut pas dire que l'image du cercle est d'un segment. L'image du cercle est une ellipse infiniment aplatie. La différence entre ces deux propos, c'est que dans une ellipse infiniment aplatie, il y a une face supérieure, il y a une face inférieure, ce qu'on va appeler bientôt l'extrado et l'intrado quand on va se placer du point de vue de l'aérodynamicien. Et il faudra donc bien distinguer deux points qui ont la même abscisse, mais qui sont situés l'un sur l'extrados et l'autre sur l'intrados. Ils ne vivront pas la même chose, notamment en physique. Ils n'auront pas les mêmes vitesses ni les mêmes pressions. D'accord ? Donc l'image du... Il est faux de dire... Enfin, c'est correct géométriquement, ça n'est pas correct mécaniquement parlant. D'accord ? L'image du disque, lorsque grand R tend vers C par valeur supérieure, ce n'est pas un segment, ou alors c'est un segment à deux faces. D'accord ? Il faut bien faire la... Cette précision est importante. Voilà. J'y remarque tout de suite quelque chose que peut-être certains d'entre vous ont gardé à l'esprit. J'ai dit tout à l'heure que, c'est encore au tableau, l'image de la tangente, c'est la tangente. Quand je dis la tangente, je pourrais parler des tangentes, parce que je peux en dessiner deux. D'accord ? Ça, comme ça, si je le prends tel quel, ça veut dire que si j'ai ici un point régulier, c'est-à-dire que les deux tangentes forment l'angle plus pi dans le plan antécédent, eh bien l'image de ces deux tangentes dans le plan image forme toujours l'angle plus pi, à cause de la règle de conservation des angles que j'ai abondamment explicitée tout à l'heure. Oui, mais ça veut dire que l'image d'un point régulier est un point régulier. OK ? Ah, alors là, je vois qu'il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que je suis passé de quelque chose de régulier, évidemment, il n'y a pas de point singulier sur un cercle, d'accord, à quelque chose qui exhibe des points singuliers. J'en ai un ici, et j'ai l'autre point qui est là. La raison, vous vous en doutez. On a pris le soin tout à l'heure de préciser que pour obtenir cette règle de conservation angulaire, il fallait que h' de z0 ne soit pas nul. Ici, h' de z0 s'annule deux fois. Il s'annule en z0 égale à plus c, évidemment z0 égale à moins c, puisque si vous prenez la dérivée de ce bazar, vous trouvez 1 moins c carré sur z carré, dont les deux racines sont grand z égale plus ou moins c. D'accord ? Donc ça, c'est important. C'est important sur le plan géométrique, parce que ça se traduit par deux points singuliers dans le plan image, d'accord ? Mais ce sera aussi très important, notamment la situation z égale plus c, parce que ça aura des conséquences sur la cinématique que je produis par le transport géométrique de la transformation conforme. OK. Voilà. J'ai peut-être l'air d'être bavard, mais on a déjà mis en place beaucoup de choses. Voilà. Alors, bien sûr, là, je me suis intéressé, je le remontre encore une fois, à la situation où l'obstacle qui m'intéresse est un obstacle cylindrique circulaire centré à l'origine, avec grand R strictement plus grand que C, pouvant tendre vers C par valeur supérieure. Ça me donne déjà quelque chose, c'est que je suis en particulier capable d'étudier l'interaction entre un écoulement et une plaque plane. Et une plaque plane, c'est déjà un premier modèle, bien sûr très simplifié, d'aile d'avion, d'accord ? C'est une situation sans cambrure, d'accord ? Ni épaisseur. Mais pour ceux qui ont déjà commencé à travailler sur l'EDM, vous voyez bien de quoi je veux parler. Une aile est caractérisée par sa cambrure, par une loi de cambrure et une loi d'épaisseur. Bon, ici, je suppose qu'aussi bien la loi de cambrure que la loi d'épaisseur sont nulles. Ça me donne la plaque plane. Mais je peux étudier donc déjà ce premier modèle. Je sais, c'est ce que nous allons faire en petite classe tout à l'heure. On va en fait juste sortir le plat du four, parce qu'on a déjà fait tous les calculs. Okay, tous les calculs ont été faits dans les deux derniers TD. On n'a qu'à exploiter les solutions que nous avons mises en place. D'accord ? C'est donc intéressant, mais bien sûr, c'est trop schématique. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Joukowski, qui est évidemment l'auteur, donc, qui est la personne qui a proposé la transformation qui porte son nom, qui nous dit, si je m'amuse à bouger le cercle de rayon grand R dans le plan complexe, d'accord, avec une règle très simple, c'est que ce cercle doit toujours intersecter l'axe des abscisses au point X égale plus C, j'obtiens des profils qui ont un intérêt pour les études aérodynamiques. D'accord ? Alors, comment il fait ? Tout simplement, je vais faire des dessins, et ceux qui feront le projet Python auront l'opportunité de les construire par eux-mêmes. D'accord ? Voilà la situation où je vais déporter légèrement le centre du cercle, ici dans le quart nord-ouest. D'accord ? Je vais dans le quart nord-ouest, d'accord, avec un rayon qui va être légèrement plus grand ici que la valeur de C. J'ai pris C égale 1. Vous voyez que mon rayon est légèrement plus grand que C. C'est obligatoire, puisque j'ai déporté le centre de mon cercle dans le quart nord-est et que le cercle est assujetti à passer par le point petit x, grand X égale plus C. D'accord. Alors, au passage, la position exacte du centre de mon cercle est définie par l'angle delta, d'accord. C'est-à-dire que l'angle delta, c'est l'angle que forme au signe près, d'accord, le vecteur qui part, qui a pour origine le centre du cercle et pour extrémité le point grand X égale plus C. Vous voyez que cet angle est négatif, ok, et la valeur absolue de cet angle ici, c'est pi sur 20 dans le cadre du dessin que je produis. L'image de mon cercle bleu, D'accord? L'image du cercle bleu, qui est construit par ce procédé, eh ben, c'est ce profil qu'on appelle un profil de Joukowsky, qui là, pour le coup, commence vraiment à ressembler à une aile d'avion et à un obstacle profilé. D'accord? Alors, bien sûr, en réglant la position du centre dans le quart nord-est et en réglant la valeur de l'argument, la valeur de l'angle, pour parler plus simplement, qui joint le centre du cercle et le point grand X égale plus C, je peux obtenir des formes qui auront des cordes différentes et des lois d'épaisseur différentes. D'accord? Voilà la première situation, et c'est la situation la plus intéressante pour les applications dans le cadre de l'ingénierie. OK? On va regarder deux autres situations qui sont un peu plus académiques. Bah, la situation où je déporte le centre vers la gauche en le laissant sur l'axe des abscisses, on se convainc très facilement que dans ce cas-là, j'obtiens une figure symétrique. Ça vous renverra au ODM, première partie, qui est déjà à votre disposition. Voilà ce que j'obtiens. Donc, ici, c'est la même valeur du rayon, mais j'ai fixé l'angle delta égal à 0, c'est-à-dire que le centre de mon cercle est maintenant sur l'axe des abscisses, dans le domaine des x négatifs, à la distance 1.13, donc du point grand x égale c, qui est ici égal à 1. D'accord? J'obtiens à ce moment-là un profil sans cambrure qui est doué de la loi d'épaisseur que vous visualisez ici. D'accord? Et donc, puisque c'est un profil sans cambrure, c'est un profil qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Dernière situation que je propose de regarder, bah, c'est la situation où, au contraire, j'impose au centre de mon cercle de se déplacer sur l'axe des ordonnées. D'accord? Alors, automatiquement, à ce moment-là, s'il coupe l'axe des abscisses au niveau du point grand X égale plus C, il va également le couper en grand X égale moins C. Et on obtient à ce moment-là l'arc que vous visualisez ici, qui est en fait encore, exactement comme dans le cas de ma plaque plane, un arc à deux faces. Il faut distinguer un extrados et un intrados. D'accord? Ce n'est pas une parabole. Vous pourrez vous entraîner à chercher l'équation paramétrique de cet arc. C'est pas très difficile. D'accord. Et c'est évidemment cette fois-ci un petit peu l'opposé de la situation précédente. C'est un profil avec cambrure, sans épaisseur. Ok. Voilà donc un peu le genre d'objet qu'on est capable de produire à partir de la transformation de Joukowsky en l'appliquant au cylindre circulaire et en jouant sur la position du centre du cylindre, avec cette règle que je vous demande de garder à l'esprit, que le contour du cylindre, d'accord, mon cercle là, passe toujours par le point grand X égale plus C de l'axe des abscisses. Alors, au passage, pour retrouver, pour reproduire dans le cas que nous avons sous les yeux les remarques que nous avons faites au profit de la plaque plane, vous observez que sur ce profil, je vois deux points singuliers. Sur ce profil, je n'ai qu'un seul point singulier. De la même manière qu'ici, il n'y avait qu'un seul point singulier. Les raisons sont très simples. D'accord? C'est que le domaine d'étude, qui est le complémentaire du disque de contour bleu, n'a qu'un point pour lequel je vais vérifier la règle H' de grand Z égale à 0. C'est le point X égale à plus C, puisque le point X égale à moins C n'appartient pas au domaine d'étude. Et donc, un seul point singulier, le reste du contour sera régulier. Voilà la raison pour laquelle ce contour n'a qu'un seul point singulier. De la même manière, celui-là n'en a qu'un pour les mêmes raisons, c'est que le point X égale moins C n'appartient pas au domaine d'étude. En revanche, celui-ci a, comme la plaque plane, deux points singuliers, parce que j'ai ici et là les deux racines de l'équation H' de grand Z égale à 0. D'accord? Voilà. Donc, on a passé pas mal de temps sur des considérations géométriques, mais vous avez compris que dès qu'on a réglé un problème de géométrie, on a réglé un problème de mécanique, on a résolu un problème d'interaction fluide-structure avec un obstacle profilé. OK? Voilà. Alors, je viens de mettre un peu l'accent sur cette histoire de singularité. C'est peut-être l'occasion d'aller un petit peu plus en profondeur à ce sujet sur le plan quantitatif. Alors, si je me donne un développement limité, assez général, de ce qui va se passer lorsque je vais avoir un point singulier, c'est-à-dire lorsque j'ai une perte de conformité au point Z0, vous avez compris que ça signifiait que H' de Z0 était nul. D'accord? Est-ce que je peux établir une connexion entre le développement limité de la fonction h2z au voisinage de z0, d'accord ? Est-ce que je peux établir une connexion entre cet objet mathématique, d'accord, et la géométrie que je vais observer ? Ça, c'est extrêmement intéressant. Tout d'un coup, un développement limité devient un indicateur de géométrie ou, à l'inverse, la connaissance de la géométrie me permet de deviner le développement limité. La réponse est, c'est très simple. Pourquoi ? Voilà, je vais supposer que je suis donc dans le cas h' de z0 égale à 0. J'écris mon développement limité, d'accord ? Ok. Et donc, le premier terme va être de la forme alpha, où alpha est un réel, d'accord ? Ou un complexe, z moins z0 puissance n. Donc, je ne précise pas la nature de alpha, mais ce que je sais, c'est que le premier terme non nul est un terme de puissance n. Ça ne peut pas être n égale 1, puisque h' de z0 est nul. Donc, c'est un réel strictement plus grand que 1. Alors, ceux d'entre vous qui ont un petit peu approfondi les fonctions holomorphes disent, mais pourquoi il me parle de réel ? Je sais qu'une fonction holomorphe est analytique. Faux. Une fonction holomorphe est analytique, d'accord ? Si elle est holomorphe sur un ouvert. Okay. Et si je prends log de z, ben log de z est une fonction holomorphe, mais pas sur un ouvert centré à l'origine. Vous savez bien que le demi-axe des réels négatifs est exclu. Pour la même raison, toutes les fonctions puissance de la forme z puissance 1 sur n, par exemple avec n strictement plus grand que 1, vont avoir ce défaut de ne pas être holomorphe sur un ouvert centré à l'origine. D'accord ? À ce moment-là, le développement limité, enfin la fonction n'est pas analytique en z0. Okay. Bien qu'elle soit holomorphe en tout point sauf en z0 et typiquement sur le demi-axe des réels négatifs, eh bien, elle perd cette propriété en z0 d'être analytique. Okay. Donc le développement limité n'est pas aussi trivial que ce que l'on pourrait penser. C'est pas forcément, il ne coïncide pas forcément avec une série entière. Faut être attention, faut être méfiant sur cette affaire-là. D'accord ? C'est pour ça que je ne précise pas la nature de petit n. Okay. Je vais regarder maintenant les choses en me disant, ben, si je m'intéresse au voisinage d'un point singulier, d'accord, je vais regarder ce qui se passe sur un vecteur des grands Z, exactement le petit travail que je faisais ici. Je vais prendre un vecteur des grands Z au voisinage de Z0, d'accord. Quel est-il? Ben, c'est tout simplement grand Z moins Z0 avec module de grand Z moins Z0 infiniment petit. Donc mon grand Z, mon D grand Z ici, c'est grand Z moins Z0 avec module de Z moins Z0 suffisamment petit. D'accord ? Eh bien à ce moment-là, son image, ça va évidemment être petit Z moins H de Z0, qui est lui-même suffisamment réputé infinitésimal. Et je vais donc me retrouver à la tête, si je regarde mon développement limité, bah, z moins h de z0, c'est-à-dire d petit z, est égal à alpha grand z moins z0 puissance n, c'est-à-dire d grand z puissance n. D'accord ? Et si je lis cette relation, bien sûr, alpha est réputé non nul, et je vais le prendre typiquement quelconque à ce stade-là, hein, eh bien, je vais obtenir la règle que l'argument de d petit z, c'est l'argument de alpha plus l'argument de d grand n fois n. D'accord ? Et donc, je vois ici que l'annulation de h' de z0 remplace ici le 1 que j'avais dans la règle de conformité par la puissance petit n, par la première puissance non nulle du développement limité. Okay. Alors maintenant, si je raisonne en variation, c'est-à-dire si je reprends deux vecteurs matériels, excusez-moi pour cet abus de langage, mais ça revient au même, des grands Z1 et des grands Z2 dans le plan antécédent, et que je regarde leurs images des petits Z1 et des petits Z2, eh bien la variation de l'argument dans le plan antécédent n'est plus égale à la variation de l'argument dans le plan image. Je vais avoir le facteur petit n entre les deux, c'est-à-dire que je vais avoir argument de dz2 moins dz1 égale n fois argument de d grand z2 moins argument de dz1. Alors on va faire un dessin. Voici un point régulier, grand z0, du contour de mon disque, d'accord ? Et je vais prendre, bah, par exemple, d grand z1 dans le sens de moins eθ, d grand z2 dans le sens de plus eθ, et h' de z0 est nul. Que se passe-t-il ? Eh bien, l'image ne sera pas un point régulier, d'accord ? Je ne serai pas dans cette affaire-là. Mais je vais trouver qu'au contraire, je dois multiplier par np. OK? Donc ça veut dire que ben je m'attends à ce que l'image du point d'affixe grand Z0, voilà, je vais la trouver ici, H de Z0, n'est pas un point régulier de mon contour, et l'angle que je visualise ici, eh bien, c'est n fois pi. D'accord? Alors, si j'appelle bêta le réel positif tel que pi bêta définisse ce dièdre, d'accord? Eh bien, son complémentaire, ça va évidemment être 2 moins bêta fois pi, eh bien, j'obtiens que 2 moins bêta est égal à n. Donc, n est relié très simplement à l'angle du dièdre qui caractérise la singularité dans le plan image par la règle 2 moins bêta égale à petit n. Et j'ai ainsi connecté un dessin, d'accord? Je vois mon dièdre dans le plan image, d'accord? L'image de ce point régulier est un point singulier. Ici, il y a un dièdre dont l'angle d'ouverture est égal à pi bêta. Ben, je sais relier bêta à un objet mathématique qui est un développement limité. Et ça, c'est quand même extrêmement sympathique. Ça connecte des réalités qui ne sont pas sur le même plan, une réalité géométrique et une réalité analytique, d'accord? Je pense que c'est quelque chose qui est sympathique. Voilà. Donc voilà la règle qu'il faut retenir. Alors, évidemment, ben, ça veut dire que si n est égal à 2, bêta est égal à 0, en particulier. D'accord? Donc, dans la situation où j'ai un gentil développement de Taylor, le premier terme est nul, mais le deuxième terme ne l'est pas. On va voir tout de suite que c'est la situation dans laquelle on se trouve dans le cas de Joukowski. OK? Eh ben, c'est sympathique. Ça veut dire que bêta égale à zéro, j'en ai dit automatiquement que mon point singulier est un point de rebroussement. Et c'est ce qu'on a visualisé sur l'exemple de la plaque plane ou sur l'exemple, vous vous souvenez, quand le centre du cercle était placé sur l'axe des ordonnées. Voilà la situation à laquelle on se trouve dans le cas de la transformation de Joukowski. Je vais le vérifier avec vous dans un tout petit instant. Donc, typiquement, point de rebroussement si bêta est nul. Ça correspondra au fait que, dans mon développement limité, eh bien, j'ai la chance d'être sur un gentil développement en série entière dont le premier terme a disparu, le premier terme non nul, petit n égal à 2, a automatiquement point de rebroussement. Mais c'est pas la situation que vous rencontrerez systématiquement. Encore une fois, dans le cadre du projet Python, vous allez travailler, à la fin du projet, vous allez voir, sur un profil qui est plus réaliste que les profils de Joukowski, qu'on appelle le profil de Karman-Treves. Et dans ce cas-là, eh ben oui, il se trouve que petit n n'est pas égal à 2. Il est strictement plus petit que 2. Et si n est strictement plus petit que 2, ça va se traduire par un dièdre authentique, d'accord, bêta strictement plus grand que 0. Si on fabrique pas des ailes d'avion qui sont des points de rebroussement, c'est parce qu'on sait pas le faire. Ce serait mieux sur le plan aérodynamique, d'accord? Mais c'est parce qu'on sait pas le faire, tout simplement, pour des raisons technologiques qui sautent aux yeux, d'accord? Donc il y a toujours un dièdre à l'arrivée. C'est la raison pour laquelle le profil de Joukowski est, de ce point de vue, un profil qui reste un petit peu académique. Et c'est aussi pour ça que y a des gens qui ont travaillé pour obtenir des transformations conformes qui permettent de justifier l'existence d'un dièdre au niveau du bord de fuite. OK? Voilà. Donc on commence à connecter on est parti de situations extrêmement académiques, d'accord? L'interaction entre un écoulement et un obstacle cylindrique circulaire dont je me plais à répéter encore une fois que cet écoulement est un objet purement académique qu'on n'observe pas au laboratoire. On passe de ça à des choses qui commencent à être la réalité de ce qu'on peut observer dans une soufflerie. Okay. Voilà. Alors, donc c'est réglé pour ce qui concerne les points singuliers. On va appliquer ça très rapidement. C'est très simple. Je vais le faire d'une manière un peu artisanale. Je pourrais suite dire, allez, je prends le développement en série entière, je le tronque et je... Bon, je vais pas faire ça parce que ça marche pas toujours. Donc, je vais travailler d'une manière plus artisanale, dont je pourrais me dispenser dans le cas présent, mais parce que c'est la méthode que vous pourrez utiliser systématiquement, en particulier pour une transformation du type Karman-Treves. Okay? Alors, je me place au voisinage du point où il y a, d'un des points où il y a, d'une des racines de l'équation H' de grand Z égale à 0, qui est grand Z égale à plus C. J'explique pourquoi. C'est parce que dans le cas général des transformations de Joukowski, c'est le seul point singulier, puisque z égale à moins c est à l'intérieur du disque. Mais évidemment, on a vu deux situations où z égale à moins c était également une autre racine possible dans le domaine d'étude. C'est pas celle qui va m'intéresser. Je vais m'intéresser principalement à donc grand X égale c, qui est l'antécédent du bord de fuite par la transformation de Joukowski. Okay ? Donc je fais un développement limité. Bon, j'écris mon grand Z, si vous voulez. Je vais prendre un nombre complexe qui est donc l'affixe d'un point qui est situé à proximité de grand X égale C, c'est-à-dire que je me place ici, quelque part, dans cette région. Ici, ça, c'est le point grand X égale C. Et je suis en train d'examiner l'affixe d'un point qui est à proximité de petit c. Je vais l'écrire petit c, facteur de 1 plus epsilon, avec évidemment epsilon qui est un réel ou un complexe. Donc, j'écris son module ici, très petit devant 1. Je ne dis rien de epsilon, sauf qu'il est très petit devant 1. D'accord ? Alors, j'explicite ici tout simplement que petit z est égal à grand z plus c carré sur grand z, d'accord ? Et j'ai factorisé petit c. Je prends un développement limité de 1 sur 1 plus epsilon, puisque epsilon est un infiniment petit, et j'obtiens évidemment la série que vous connaissez fort bien, et je vois que le terme correspondant à k égale 1 disparaît, parce que je vais avoir ici un moins epsilon qui va partir avec le plus epsilon qui est ici. Donc je vais me retrouver avec un développement limité à l'ordre 2 qui a la tête petit z égale c facteur de 2 plus epsilon carré, aucune difficulté, et je vais revenir à ce qu'est epsilon. Qu'est-ce que c'est que epsilon ? Je vois que quand je fais grand z moins petit c, j'obtiens des grands z. Et des grands z est donc égal à petit c facteur de epsilon. Donc je suis en train de raconter que epsilon n'est rien d'autre que des grands z sur petit c. Et je vais remplacer dans mon développement limité qui est ici, d'accord ? Je vais remplacer epsilon par des grands z sur petit c, et je vais remplacer petit z moins petit c par des petits z. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens quelque chose que je voudrais bien, que j'ai pas marqué. C'est pas très grave. Ce que j'obtiens, c'est que petit z moins h de c, c'est-à-dire des petits z, égale à des grands z carrés sur petit c. Donc, voilà exactement le développement limité que nous avions ici, avec z0 égale à c, et je vois apparaître que ici, alpha est égal à 1 sur c, et que petit n est égal à 2. Donc, je suis évidemment dans la situation générale que j'ai traitée tout à l'heure, mais avec le kn égal à 2, et donc je comprends tout maintenant, ça y est, c'est bon, j'ai compris que, puisque n est égal à 2, effectivement, les singularités géométriques que je vais observer dans le cas de la transformation de Joukowsky, au point grand Z égale A plus C, eh bien, ce sont des singularités de type point de rebroussement. Voilà. J'en ai fini avec ces considérations de singularité. Et maintenant, il est temps d'essayer de dire des choses sur l'écoulement proprement dit et sa conséquence en termes mécaniques, c'est-à-dire, bien sûr, l'importance qu'il produit lorsqu'il interagit avec l'obstacle profilé. OK. Donc, on va faire un petit bilan de ce que l'on sait faire. J'ai annoncé que nous allons construire des choses dans le plan image à partir de ce qu'on savait dans le plan antécédent. Que sait-on dans le plan antécédent ? Alors, pour mon obstacle circulaire, on a commencé par travailler sur le régime acyclique. D'accord ? Donc, quand on prend un régime acyclique, on a vu qu'on avait un potentiel complexe qui était en U infini, c'est-à-dire la vitesse dans la région non perturbée, que j'ai dessinée ici sans incidence, par rapport à l'axe des X, d'accord ? Facteur de Z plus grand R carré sur Z, où R, évidemment, le rayon de mon obstacle. Alors, premier point très important, on retrouve un groupement du type grand Z plus quelque chose au carré sur grand Z. Faites bien la distinction entre la transformation de Joukowsky, où petit c est un scalaire donné à l'avance, strictement positif, ok, qui va définir le passage du plan antécédent au plan image, et le même groupement mathématique, mais qui n'a rien à voir, qui intervient dans le potentiel complexe et qui est en fait un objet qui, à une constante multiplicative près qui est la vitesse, représente un potentiel acyclique compatible avec un cylindre de rayon grand R. Donc ne mélangez pas grand Z plus grand R carré sur grand Z, d'accord, avec grand Z plus petit C carré sur grand Z. D'accord, ces deux objets renvoient l'un à une quantité qui intervient dans le potentiel complexe, l'autre, c'est la définition de ma transformation géométrique. Voilà, ça c'était le cas acyclique. Bien sûr, on s'est rendu compte qu'on avait une autre classe d'écoulement qui était compatible avec l'écoulement cylindrique circulaire, mais qui cette fois était cyclique, c'était tout simplement le tourbillon de circulation petit m. Et puis on s'est dit qu'en combinant les deux, de manière linéaire, on obtenait un potentiel complexe qui était toujours compatible avec l'obstacle cylindrique circulaire. Voilà, là j'ai fait un résumé très très court des choses qu'on a fait au cours des deux derniers TD. Donc voilà quelque chose que vous devez connaître quasiment par cœur, c'est-à-dire l'expression du potentiel complexe une famille à un paramètre, petit m en l'occurrence, d'accord, de potentiel complexe compatible avec la géométrie de cylindre circulaire de rayon grand R. Au passage, vous remarquerez que c'est une famille à un paramètre, mais que rien ne me donne, pour l'instant, la valeur de ce paramètre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a joué le mercredi d'avant les vacances en disant, ben voilà, les balles brossées, les trucs comme ça, le tennis, le football, oui. Tout ça, c'est très beau, d'accord, mais je ne connais pas petit m. Okay. Donc, bon, le football, les tennis, c'est très très bien. Moi, ce qui va m'intéresser avec vous, c'est les ailes d'avion. Comment je vais avoir la valeur de petit m? Ben ça, il faut m'écouter jusqu'à la fin de l'amphi pour le savoir. Pour le moment, petit m est un paramètre. Donc, je sais qu'il existe. Enfin, je sais qu'il existe. Je ne sais même pas très bien encore pourquoi il existe. Il faudra la séance de mercredi prochain pour bien le comprendre. Je sais qu'il existe, mais mercredi d'après, pardon. Mais je ne sais pas encore, et je sais qu'il est responsable de la portance. Plus exactement, on va le démontrer. Son origine est encore un petit peu mystérieuse. Voilà. Alors, on va jouer avec notre deuxième, puisqu'on vient de voir Joukowsky, notre deuxième transformation conforme. Alors ça, c'est la plus simple que l'on puisse imaginer. C'est la transformation conforme, c'est tout simplement une isométrie. Je vais faire une rotation centrée au centre de mon disque d'angle alpha. D'accord ? Ben, c'est évidemment une transformation conforme. Voici ici, vous le savez aussi bien que moi, la rotation du plan complexe d'angle alpha. Grand Z a pour image grand Z facteur de exponentielle de I alpha. Ben oui, évidemment, parce que ça veut dire que l'argument de l'image, ben, c'est l'argument de grand Z plus alpha, et que le module est conservé. Donc c'est bien une isométrie, elle conserve les angles et les distances, d'accord. Et elle a une propriété évidente, c'est qu'elle conserve invariante la géométrie de l'obstacle. OK. Bon, bah, donc ça veut dire que je peux l'utiliser comme transformation conforme et je vais donc regarder quelle est l'image de l'écoulement autour de l'écoulement qui est caractérisé par F de grand Z. Voici l'écoulement qui est caractérisé par F de grand Z, d'accord. Je vais regarder quel est l'écoulement image. C'est un écoulement qui est compatible, encore un écoulement qui est compatible avec la géométrie de cylindre circulaire. D'accord. Alors, juste pour une fois, le plan image, je ne vais pas le noter petit z, je vais le noter avec la lettre zeta, d'accord. OK. Et donc, je vais m'intéresser au potentiel petit f de zeta, d'accord, qui est donc le potentiel dans le plan image lorsque la transformation conforme que j'utilise est la rotation d'angle alpha. OK. Alors, ben là, c'est particulièrement simple parce que ben, vous savez que le potentiel petit f, je vais effacer ça, le potentiel petit f de zeta, d'accord, est égal au potentiel grand F de grand Z en des points homologues, c'est-à-dire quand petit zeta est égal à grand Z EI alpha. Et on a dit, bah, une autre façon d'écrire ça, ok, consiste à remplacer grand Z ici par, ça c'est ma transformation H de grand Z, bah, à remplacer ici... de dire que, tout simplement, grand Z est égal à H moins 1 de zeta. Bah, ici, pour le coup, la fonction réciproque de la transformation qui a grand Z associe zeta, c'est évidemment la transformation qui a zeta associe zeta facteur de E moins I alpha. Donc cette affaire-là ici, c'est égal à zeta facteur de E moins I alpha. Donc je suis en train de raconter que F de zeta... c'est tout simplement grand F de zeta e puissance moins i alpha. Et donc, je suis à la tête d'une classe à deux paramètres maintenant de potentiel complexe compatible avec la géométrie de cylindre circulaire. On va regarder la tête qu'à un élément de cette famille. Eh bien, j'ai remplacé donc grand Z ici par zeta e moins i alpha. Vous avez ici 1 sur grand Z, ça va donc évidemment vous donner 1 sur zeta exponentielle de i alpha au numérateur. Et puis, j'ai laissé traîner là, ici. Bon, évidemment, ils vont s'en aller, hein, aussi bien e moins i alpha que grand R. On les met pour la décoration, mais ils vont s'en aller parce qu'un potentiel s'est fait pour être dérivé. Et à la dérivation, on ne les verra plus. Mais enfin, ça fait plus riche. OK ? Voilà. Donc, je suis bien à la tête d'une famille d'écoulement à deux paramètres. Quels sont ces paramètres? J'ai petit m, ma circulation, et puis j'ai ici alpha. Alors, quel est le sens physique de alpha? Le sens petit m, je sais ce que c'est la circulation, mais quel est le sens physique de alpha? Eh bien, je peux en juger très simplement en dérivant mon potentiel complexe, petit f de petits états, et en regardant le comportement de la dérivée à l'infini. Si je fais ce travail, qu'est-ce que je trouve? Quand je vais regarder la dérivée de f de zeta par rapport à zeta, je vais trouver un premier terme, on va le marquer, f prime de zeta, ça va être u exponentielle moins i alpha, et puis sinon je vais avoir quoi? Je vais avoir un terme en 1 sur zeta carré, et puis je vais avoir un terme en 1 sur zeta. Donc en fait, je vais me retrouver avec quelque chose qui est un grand O de 1 sur zeta. Par conséquent, le comportement asymptotique, la valeur de la vitesse à l'infini, je la lis ici. C'est le terme dominant. Le terme dominant, attention, en termes de vitesse complexe, c'est grand U, E moins I alpha. Ça veut dire que si maintenant je prends la vitesse réelle, qui est le conjugué de la vitesse complexe, d'accord? Donc en prenant le conjugué, je vais évidemment trouver grand U, E, I alpha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'infini, ce que j'ai, c'est un écoulement dont la norme de la vitesse est égale à grand U, mais qui forme l'angle plus alpha avec l'axe des abscisses. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce que je sais résoudre pour le moment? Je sais résoudre pour le moment le problème de l'interaction entre un écoulement et un obstacle cylindrique circulaire avec à l'infini une vitesse grand U, présentant par rapport à l'axe des abscisses une incidence alpha. D'accord? Et de plus, bien sûr, je sais incorporer dans cette affaire-là une circulation égale à petit m. Eh bien, avec ça, je vais regarder maintenant quels sont les problèmes que je suis capable de résoudre dans le plan image. Image de quoi? Image, évidemment, du complémentaire du disque centré ou non à l'origine par la transformation de Joukowsky. Centré ou non. D'accord? Voilà. Alors, on l'a vu et on a fait quelques dessins. Si je prends la transformation de Joukowsky, je sais très bien, je vous ai présenté un petit peu les objets que j'étais capable d'obtenir à partir du disque. Si je prends d'autres transformations comme celle de Karman-Treves que j'ai citée, j'aurai éventuellement ici au bord de fuite, j'aurai éventuellement un dièdre et ce ne sera pas un point de rebroussement. D'accord? Ce que je prétends, c'est que si j'applique la combinaison des deux transformations conformes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire d'abord la rotation, ensuite la transformation de Joukowsky, d'accord? Eh bien, je suis capable de résoudre à partir de l'écoulement dans le plan antécédent, avec la vitesse infini à l'infini, l'incidence alpha, je suis capable de résoudre le problème dans le plan image pour les mêmes données à l'infini. Alors, pour les mêmes données à l'infini, ça mérite un point, ça mérite qu'on s'y arrête une petite seconde. Est-ce que c'est une règle générale? La réalité est non, ce n'est pas une règle générale, il faut une propriété. Ce que j'ai indiqué, c'est que le potentiel complexe que je viens de vous proposer, ici, donc on va changer les notations, hein. Donc je vous avais dit, je passe de grand Z à zeta, et maintenant mon zeta redevient mon grand Z, c'est-à-dire que j'ai fait tourner ma figure d'un angle alpha, et j'appelle à nouveau grand Z, je reviens à la variable grand Z pour le plan antécédent. Quelle est la vitesse asymptotique? La vitesse asymptotique, nous l'avons dit, la vitesse réelle asymptotique, c'est U, E puissance I alpha. Maintenant, j'applique une transformation conforme à l'ensemble du dessin de gauche, et je vais trouver cette géométrie. D'accord? Ce peut être la transformation de Joukowski. Ce peut être la transformation de Karamanov, que je ne vous ai pas présenté, donc je vous ai simplement parlé. Est-ce que je peux prévoir le régime asymptotique dans le plan image? Est-ce que je peux dire ce que va être la norme de la vitesse à l'infini et éventuellement son incidence? La réponse est oui. La réponse est oui, il suffit de prendre la règle de calcul. D'accord? Quelle est la règle de calcul qui me permet de passer d'une vitesse complexe du plan antécédent à une vitesse complexe du plan image? Nous l'avons vu, c'est f' de petit z égale grand f' de grand z sur h' de grand z. Et maintenant, je passe à l'analyse asymptotique. Asymptotiquement, f' de grand z, d'accord, nous l'avons dit, c'est u e moins i alpha. D'accord? À quelles conditions en est-il de même de f' de petit z? Eh bien, il faut que l'infini soit un point fixe. C'est-à-dire qu'il faut h' de grand z égale à 1. Si h' de grand z est égal à 1, ou plus exactement, tend vers 1 quand le module de grand z tend vers l'infini, vous êtes assuré que la vitesse asymptotique dans le plan image coïncide avec la vitesse asymptotique dans le plan antécédent. Mais c'est seulement dans ce cas-là, on peut toujours s'y ramener, rassurez-vous, mais c'est seulement dans ce cas-là que les vitesses asymptotiques coïncident. Même orientation, même module. Alors, quand je prends la transformation de Joukowski, qui est grand Z plus C carré sur grand Z, et que je prends la dérivée par rapport à grand Z, ben, je vais avoir H' de grand Z égale à 1 moins C carré sur Z carré. Évidemment, quand grand Z tend vers l'infini par rapport, quand le module de grand Z est grand par rapport à C, je trouve que H' de grand Z est équivalent à 1. Et donc, dans le cas de la transformation de Joukowski, qui est principalement le cas qui va nous intéresser, eh bien, comme H' de grand Z tend vers 1 à l'infini, je peux affirmer que les vitesses asymptotiques dans le plan antécédent et le plan image coïncident. D'où le dessin que je présente ici, mais si vous êtes en train de prendre des notes, notez bien que la coïncidence des vitesses asymptotiques n'est assurée que si H' de grand Z tend vers 1 à l'infini. Je l'aurais suffisamment répété. Voilà. D'accord. Alors, avec la transformation de Joukowski, il n'y a plus rien à dire. Ça y est, je sais résoudre ce problème-là. C'est-à-dire que puisque je sais résoudre ce problème-là, c'est-à-dire je sais exhiber une classe à deux paramètres, alors on va dire que alpha est un paramètre fixé, puisque ça va être l'incidence qui va m'intéresser dans le plan image, d'accord ? Je suis en train de m'intéresser à l'interaction du profil image ici avec une vitesse avec une vitesse qui présente une incidence par rapport à la corde de ce profil image, d'accord? Donc cette fois-ci, alpha est un nombre qui est bien précis, Le pilote, il est en train de tirer sur le manche pour présenter une certaine incidence par rapport au vent relatif, ok? Très bien, donc ça c'est une donnée physique, une donnée de mécanique du vol, ok? Donc ce n'est plus un paramètre. Je me retrouve donc avec une classe à un paramètre qui est petit m, d'écoulement, compatible avec le profil antécédent et donc la même classe transportée par la transformation conforme de mon choix, d'accord, pour ce qui est de l'écoulement dans le plan image. Je sais faire. Il y a toujours, quelque part, une épine dans le pied, je ne sais toujours pas ce que c'est que petit m. Mais je sais faire. OK? À la détermination de petit m près. Alors, vous allez dire, OK, super, vous avez résolu le problème dans le cadre du profil de Joukowski, vous avez parlé d'une autre transformation conforme qui va nous donner peut-être un profil plus réaliste. Qu'en est-il de la généralité? Est-ce que cette méthode marche toujours? Réponse, oui, théoriquement. D'accord? Pratiquement, c'est beaucoup moins clair. Mais vous pourrez en discuter avec Thomas qui a des idées pour résoudre le problème. Alors, quel est le théorème qu'on peut énoncer? Le théorème qu'on peut énoncer est le suivant. Si je me donne, dans le plan, qui va être le plan image dans un instant, un arc fermé qui entoure l'origine, pour éviter les singularités. D'accord? Donc si je prends un arc fermé dans le plan qui va être le plan image dans un instant, entourant l'origine, c'est-à-dire que l'origine est quelque part ici dans la zone verte, d'accord? Eh bien, il existe une transformation conforme dont cet arc soit, par laquelle cet arc, soit l'image d'un cercle entourant lui-même l'origine. D'accord? Voilà, donc ça c'est un résultat qui est beaucoup plus général, qui me dit que potentiellement je suis capable de résoudre le problème de l'écoulement autour de n'importe quel obstacle. À partir du moment où je sais résoudre le problème de l'interaction avec le cylindre circulaire, puisqu'il existe une transformation conforme transformant le cylindre circulaire en la géométrie qui m'intéresse, je peux affirmer qu'au moins théoriquement le problème est réglé. D'accord? Bon, ça c'est une affirmation qui va vite, parce qu'encore faut-il être capable de proposer une méthode systématique, moi je ne la connais pas, d'accord? Une méthode systématique permettant d'expliciter la fonction qui à grand Z associe petit z, la fonction petit z égale h de grand Z. Alors, on peut la mettre sous la forme de ce qu'on appelle une série de Laurent, d'accord, c'est-à-dire en fait une série selon les puissances de grand Z, mais avec des termes négatifs. Une série Laurent de cette structure a la propriété, comme vous voyez ici, quand vous faites tendre grand Z vers l'infini, si cette série est convergente, elle va tendre vers zéro, et petit z sera équivalent à grand Z à l'infini. On dit que l'infini est un point fixe. D'accord? C'est la situation H' de grand Z tend vers 1 à l'infini. Okay? Alors, la théorie nous dit que une telle transformation existe et qu'un tel développement en série de Laurent existe. Reste à trouver les coefficients de cette série. Et comme je l'ai dit, c'est un problème pour lequel je ne connais pas de méthodologie systématique. OK? Mais enfin, ce résultat est extrêmement puissant, au moins théoriquement. OK. Donc, à ce stade, que savons-nous faire? Eh bien, je sais expliciter l'écoulement par son potentiel complexe dans le plan antécédent. À ce moment-là, le potentiel petit f de petit z peut être calculé à partir de grand f de grand z, sous réserve que je sois capable d'inverser la relation qui me donne petit z en fonction de grand z, c'est-à-dire sous réserve que je sois capable d'expliciter la fonction h-1 de petit z. Alors en fait, on va démontrer maintenant un résultat, oh là je suis en retard, on va démontrer un résultat qui est extrêmement important, qui s'appelle le théorème, la formule de la portance, d'accord? Je vais devoir aller vite parce que j'étais trop bavard, d'accord? Et cette formule de la portance suppose que je suis capable d'expliciter au moins théoriquement la structure de la relation qui a petit z associe h-1 de petit z, c'est-à-dire la fonction réciproque. Ok? Alors on va faire ça. D'accord? Alors, formule de la portance. Quelle est l'idée? Je suis capable d'inverser cette relation. Donc, je vais expliciter grand Z, cette fois-ci en fonction de petit Z, et j'affirme qu'il existe une série de Laurent dont les coefficients sont les B indices N. D'accord? Et ce que je vais faire, voilà donc la structure sous forme de série de Laurent de la fonction H-1 de petit Z. Et je vais l'introduire dans mon potentiel complexe, grand F de grand Z, pour obtenir la valeur de petit f de petit z. Voilà, ce que j'affirme, c'est que si je prends le terme en grand z, il va me donner petit z plus une série avec des puissances négatives. Le terme 1 sur grand z va me donner de la même manière un terme 1 sur petit z plus une série avec des puissances négatives, et on ferait de la même manière des commentaires au profit du log. Admettez, c'est ici le point délicat de la démonstration, qu'à ce moment-là, f de petit z se met sous la forme de trois termes, un terme linéaire, un terme logarithmique et une série de Laurent qui comporte éventuellement un terme constant. Et tous ces autres termes sont négatifs. Je peux donc maintenant passer au calcul de la vitesse complexe. Je peux calculer petit f' de petit z. Pourquoi je veux faire ça? Parce que je veux calculer la portance, et pour calculer la portance, il faut avoir f' de petit z via la formule de Blasius. D'accord? Donc je dérive par rapport à petit z, je vais trouver la dérivée du terme linéaire, ça va être un terme constant, la dérivée du log va me donner un terme en 1 sur z, et dans ces affaires-là, je vais évidemment avoir la constante qui disparaît, et le premier terme non nul est un terme en 1 sur z carré. D'accord? D'où la somme pour n plus grand que 1, de termes en 1 sur z puissance n plus 1. D'accord? Blasius, donc je prends le carré de cette affaire-là, toujours pareil, c'est facile à écrire, sur le plan pratique, c'est beaucoup plus difficile d'exhiber les choses, mais ce que je peux affirmer, c'est que la structure de f' carré va être une constante, un terme en 1 sur z2 qui m'est donné par la dérivée du log, et puis des puissances qui, cette fois-ci, vont encore une fois commencer à n supérieur ou égal à 2, et enfin, un terme qui, provient, si je reviens une case ici, quand je regarde le terme rectangle entre la constante et le terme en 1 sur z, quand je vais prendre le carré de f', je vais voir apparaître ici un terme en 1 sur z. Vous savez pourquoi je l'isole? Parce que vous avez déjà cette pratique du calcul du contour des puissances en 1 sur zk, du calcul de l'intégrale de contour sur un lacet entourant l'origine ou par exemple sur un cercle, d'accord? D'un terme en 1 sur zk, vous savez, c'est la formule de Cauchy, que les termes constants et toutes les puissances en 1 sur zk avec k différent de l'unité conduiront à une intégrale de contour égale à 0. Donc quand je vais appliquer Blasius, le seul terme qui va subsister, c'est le terme rouge. Et le terme rouge va me donner intégrale de 1 sur z, ça fait 2i pi, d'accord? Donc je peux venir tout de suite au résultat. Le terme rouge va me donner que le conjugué de la fixe de la force, obtenu par la formule de Blasius, i rho sur 2 intégrale de contour, d'accord, est égal à la quantité que vous avez ici dans le membre de droite. Alors, sous cette forme, c'est pas très agréable, parce qu'il m'intéresse, c'est pas le conjugué du vecteur force, de la fixe du vecteur force, mais c'est le vecteur force lui-même, donc je prends le conjugué de cette relation, d'accord, que je peux mettre sous la forme que vous avez ici sous les yeux. On va faire un petit commentaire là-dessus. Je suis en train de calculer la force, évidemment, dans le plan image, qui s'exerce sur le profil image. Voici mon profil image, d'accord? Voici mon profil image. À l'infini, j'ai une vitesse U infini qui présente une incidence alpha par rapport à la corde de mon profil image. D'accord? Quelle est la force? Eh bien, la force, ce que je constate, d'accord, c'est que si M est strictement positif, son argument, c'est alpha moins pi sur 2. Donc, voici un vecteur dont l'argument est égal à alpha. Voici un vecteur dont l'argument est alpha moins pi sur 2. Donc, ceci étant égal à alpha, d'accord, voici quelle est l'orientation du vecteur force qui s'exerce sur mon profil. Si petit m est un nombre positif, ça n'est évidemment pas la situation qui m'intéresse. Ça veut dire que c'est une portance, puisque c'est un vecteur qui est perpendiculaire au vent relatif, mais c'est une portance négative. D'accord? Donc la situation qui va m'intéresser, du point de vue de la conception aérodynamique, c'est la situation où grand M est négatif. Et ça, c'est quelque chose que je vous demande de vous mettre dans la tête. Grand M doit être un nombre négatif. Pour que la portance soit l'inverse de ce que je viens de dessiner, et avec grand M négatif, tout d'un coup, eh bien, l'argument du vecteur force devient égal à alpha plus pi sur 2, et le profil devient portant. Vous verrez dans le DM deuxième partie que les conditions physiques pour obtenir une portance n'ont rien à voir avec la loi d'épaisseur, sont liés à l'incidence et au profil de cambrure. D'accord? Pour le moment, retenons que pour que le profil soit portant, il faut que la circulation soit négative. OK. Alors, je vais maintenant apporter une réponse mathématique, non pas physique, ça ce sera pour le prochain amphi, mathématique, à la question comment déterminer la valeur de petit m. D'accord? Donc ça, on va zapper. Comment vais-je pouvoir déterminer la valeur de petit m? L'idée est la suivante. Pour le moment, nous sommes toujours à la tête d'une classe d'écoulement à un paramètre petit m. Et nous venons de comprendre que pour que cet écoulement produise une portance au sens aérodynamique du terme, c'est-à-dire une portance qui soulève l'avion, si vous voulez, il fallait que m soit strictement plus petit que 0. Pour le moment, rien dans mon analyse ne me permet de préciser la valeur quantitative de la valeur absolue de petit m. D'accord? Je ne l'ai pas. Donc il faut que je trouve une solution pour faire ça. Pendant le prochain amphi, on n'a pas encore les moyens ni d'expliquer l'origine physique de cette circulation. Plus exactement, on n'a pas encore les moyens d'expliquer l'origine physique de cette circulation. Pourquoi une circulation apparaît-elle? Pourquoi est-elle négative? Mais on a les moyens de prévoir sa valeur mathématique. Et c'est ce à quoi on va se limiter pour aujourd'hui. Alors comment faire? Eh bien, l'idée, c'est d'analyser. Alors, la physique, en fait, elle sera liée à la problématique de la stabilité d'une couche limite qui se forme inexorablement par le fait que mes fluides ne sont pas parfaits. Ils sont toujours doués d'une certaine viscosité. Bon. J'en dis pas davantage parce que je serais complètement abscons si je cherchais à le faire. OK? Au moins à ce stade. Il faudra l'amphi de la prochaine fois. Encore une fois, ce que je vais faire, c'est apporter une réponse mathématique au problème. Quelle est la valeur de petit m sans comprendre son origine physique. Alors, l'idée, c'est que ce que je sais, c'est que j'ai ici, au bord de fuite, une singularité géométrique. Cette singularité géométrique est associée à la nullité de H' en ce point. Donc, Z0 est l'antécédent du bord de fuite. En ce point, H' de Z0 est égal à 0. Ça, c'est la réalité industrielle. Un bord de fuite, c'est fabriqué comme ça. Un bord de fuite, pour des raisons physiques qu'on comprendra la prochaine fois, ça n'est pas quelque chose d'arrondi, parce que ça marcherait très très mal sur le plan aérodynamique. Le bord de fuite est un dièdre ou un point de rebroussement si je passe à la limite. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je peux raconter dans ce contexte-là ? Ben, ce que je peux raconter, c'est que tout d'un coup, j'ai très peur. J'ai très peur parce que la formule me dit que f' de petit z est égal à grand f' de grand Z sur H' de grand Z. Et moi, on me dit que, en le point particulier grand Z0, le dénominateur est nul. Donc, je vais me retrouver avec une vitesse infinie. Et là, il ne faut pas avoir peur de l'infini. L'infini est évidemment lié au modèle géométrique. On a déjà eu des choses infinies. Par exemple, on a trouvé des contraintes infinies dans les problèmes de concentration de contraintes dans un point singulier de géométrie en théorie de l'élasticité linéaire. Et on a dit, non mais, on se calme, ça correspond à une réalité physique, ça correspond à des contraintes qui sont très grandes. Ici, il en est exactement de la même manière. Ça veut dire, si j'applique cette formule, que les vitesses vont être très grandes. D'accord? Très grandes par rapport à quoi? Très grandes par rapport au vent relatif. Dans la région où H' de Z0 s'annule. Est-ce que ça, c'est vrai, expérimentalement? La réponse est non. Les gens, évidemment, ont regardé très soigneusement l'écoulement au bord de fuite et ils constatent que l'écoulement au bord de fuite ne présente aucune singularité. C'est-à-dire que l'ordre de grandeur de la vitesse, en particulier dans le cas d'un point de rebroussement, l'ordre de grandeur de la vitesse est un grand O de la vitesse à l'infini. D'accord? Donc, il faut quelque chose pour neutraliser le fait que H' de Z0 égale à 0 entraîne forcément que F' de Z0 tende vers l'infini si le numérateur est non nul. Et donc, à ce moment-là, à partir de l'observation expérimentale, les vitesses au bord de fuite sont grand O de U infini. On en déduit forcément que F' de grand Z0, qu'est-ce que c'est que grand Z0? L'antécédent du bord de fuite par ma transformation conforme, doit être égal à 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle la condition de Kuta, et nous allons voir tout de suite, même si c'est peut-être un petit peu mystérieux dans mon discours ici, que c'est cette règle qui va me fournir, très simplement, de manière assez immédiate, la valeur de la circulation. Donc, je répète, je ne suis pas en train d'expliquer l'origine de la circulation, l'origine physique, je suis en train de dire comment la calculer. Et on la calcule d'un point de vue d'ingénieur, au bord de fuite, les vitesses restent bornées. Pour que la vitesse reste bornée, il faut que grand F' de grand Z0 soit nul là où H' de Z0 est nul. C'est-à-dire, en l'occurrence, pour nous, en grand Z0 égale à C. Alors, on va le faire. On en a pour une seconde. Je suis en train de dépasser un petit peu mon temps de parole. Je vais me faire... Voilà. Donc, ce que je viens de raconter, si H' est nul, eh bien F' va être inexorablement infini. Donc, il faut que grand F' de Z0 soit égal à 0. À ce moment-là, l'écriture de cette relation va fixer la valeur quantitative de petit m. OK? Et cette fois-ci, de toute ma famille à un paramètre, je vais tirer le bon écoulement, celui que je vais observer dans le cas de l'interaction entre mon écoulement et l'obstacle profilé qui m'intéresse. D'accord? On peut même aller un tout petit peu plus loin. Si je regarde maintenant le comportement de la vitesse complexe au voisinage immédiat de grand Z0, vous referez les calculs avec moi, ce que j'ai au numérateur, c'est ce qui me reste dans mon développement limité de grand F' de grand Z au voisinage de Z0. Le terme grand F' de Z0 facteur de Z moins Z0 est nul, je me place dans la situation où il y a une dérivée seconde, d'accord, je prends un développement de Taylor, le premier terme, ça va être quelque chose dans F seconde de Z0, Z moins Z0. On est d'accord ? Au dénominateur, alors au dénominateur, j'ai un petit peu triché, j'ai dérivé le développement limité de H de Z que j'ai donné tout à l'heure. Vous vous souvenez, j'avais dit H de grand Z, d'accord ? Ben, c'est H de C plus alpha Z moins C puissance N. Quand je dérive, ça va me faire un N alpha Z moins C puissance N moins 1. Je triche un peu parce que vous savez qu'on n'a pas toujours le droit de dériver les développements limités. Je le prends. OK. Bon, bah, qu'est-ce que ça me donne, cette affaire-là? Bah, ça me donne que f' de petit z est équivalent à z moins z0 à la puissance 2 moins n à un facteur multiplicatif près. D'accord? C'est-à-dire qu'il est proportionnel à z moins z0. Qu'est-ce que c'est que 2 moins n? On l'a vu tout à l'heure. D'accord? 2 moins n, c'était bêta, c'était l'angle du dièdre. Et donc, maintenant, on peut apporter les réponses. J'allais dire à ce qu'on va observer, annoncer ce qu'on va observer en soufflerie. Eh ben, si bêta est nul, c'est-à-dire si je suis dans le cas d'un point de rebroussement, ben, je vais trouver que f' est fini et que vaut-elle, ben, je suis ici, vitesse finie, qui est tout simplement f seconde z0 sur n alpha. Voilà, je trouve cette valeur finie, c'est-à-dire que au niveau du filet de l'extrados et du filet de l'intrados, je vais sortir après le bord de fuite deux filets parallèles à la même vitesse, a priori non nulle, d'accord ? Au contraire, si bêta est égal, est un nombre strictement positif, eh ben je trouve que au voisinage immédiat du bord de fuite, la vitesse est nulle. Ah ben c'est normal, j'ai un écoulement qui arrive avec une certaine inclinaison, un filet d'air qui longe l'extrados, un filet d'air qui longe l'intrados. S'ils ont des vitesses non nulles, ça va très bas se passer au niveau du bord de fuite. Il faut donc que les vitesses tendent vers zéro lorsqu'on arrive au niveau du bord de fuite, lorsque bêta est strictement positif. Voilà, j'ai dû aller un petit peu vite sur la fin, je suis désolé d'avoir dépassé mon temps de parole. Je m'excuse auprès des collègues en particulier. Voilà, vous rejoignez donc le plus vite possible vos petites classes. Merci pour votre attention.